con me on night TV team.
La police c'est des chiens. Après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, n'en plus jamais la mort des trams. Si l'enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams, eh flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif valable, on voit rien que derrière les vannes que tu envoies. T'attends qu'une chose s'éclaine, nous perdre son sang froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait tabasser.
I'm dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les Tchékars ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
D'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Je dois m'évader, ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Y'a comme un goût de dans le cœur de mes soeurs.
Tout pété.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Vous écoutez Radio Kaléidoscope sur 97FM et www.radio-kaleidoscope.net et c'est l'émission Les Murs en des Oreilles. Les Murs en des Oreilles, c'est une émission anticarcérale contre la tôle et contre tous les enfermements et c'est tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h. Je vous donne les coordonnées de l'émission pour que vous puissiez nous écrire si vous avez envie de faire des commentaires sur cette émission. Alors, vous pouvez nous écrire soit par courrier à l'adresse Les Murs en des Oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018, je répète, Les Murs en des Oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Ou sinon, vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse lesmurs@riseup.net, lesmurs@riseup.net. Voilà, alors pour cette émission, on va commencer par parler d'une manif qui s'est tenue le 8 décembre dernier devant la prison de Corba. Alors, il faut savoir que donc le 8 décembre à Lyon, c'est traditionnellement la fête des Lumières et que depuis plusieurs années... Il y a une association qui s'appelle Faites la Lumière en Détention qui appelle à manifester devant les prisons de Lyon pour justement faire la lumière sur les suicides et les morts suspectes en prison. Donc traditionnellement, ça se faisait devant les prisons de Saint-Paul et Saint-Joseph, donc qui étaient dans le centre-ville de Lyon. Et sauf qu'entre-temps, ces prisons-là ont déménagé. Et du coup, là, c'était la première année qu'il y avait une manif devant la prison de Corba et qui était appelé par cette association FLD et aussi par plusieurs associations et collectifs de toute la région Rhône-Alpes qui avaient appelé donc à manifester ce jour-là devant la prison de Corba. Et alors on va d'abord vous passer un petit extrait sonore pour que vous puissiez vous rendre compte de à quoi ça ressemblait cette manif et après on reparlera plus en détail de comment c'était.
Thank you.
fumigènes qui sont craqués, il y a une atmosphère rougeaude qui commence à se répandre autour de cette prison ultra moderne, assez impressionnante, dans une atmosphère un peu surréaliste, puisqu'on a quand même un hélico au-dessus de nous qui semblerait chercher un évadé. Et donc voilà, les pétards pètent un peu de partout, on essaie d'exprimer une solidarité avec les prisonniers. On voit les silhouettes qui s'amassent un peu aux fenêtres. Et voilà, quoi, pour l'instant, la gendarmerie reste à distance respectable et affaire à suivre. Donc là, ça crie au micro, il y en a marre, arrêtez de vous laisser faire par la pénitentiaire, révoltez-vous les mecs. Il y a une personne qui crie ça au micro, et à chaque jet de feu d'artifice, on entend des gros cris qui viennent des fenêtres. Les draps qui commencent à brûler autour des fenêtres, qui font une sorte d'écho aux pétards qui brûlent de notre côté.
Solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité, liberté, solidarité.
Là, il y a une quinzaine de personnes
qui
sont agrippées aux barrières extérieures en fait, de la prison et qui ont fait des sortes de vagues jusqu'à les déceler en partie du sol. Évidemment, assez symbolique, mais assez. Voilà, c'est important aussi de s'attaquer comme ça aux premières barrières qui sont accessibles, même si derrière il y a un gros mur d'enceinte et qu'elles ne sont pas tombées, mais elles ont quand même été en partie décelées. Grâce à la pression mise par cette quinzaine de personnes. Ouais, la manif repart doucement, accompagnée par quelques policiers et gendarmes qui pour l'instant ne s'approchent pas spécialement. Et on voit de même les silhouettes derrière les fenêtres grillagées qui disparaissent les unes après les autres, voire quelques lumières qui s'éteignent.
Voilà, alors du coup, on était à ce rassemblement et on voulait revenir un peu sur la manière dont ça s'est passé. Donc en fait, il y avait à peu près une grosse cinquantaine de personnes, on va dire, qui se sont retrouvées à un arrêt de tram dans Saint-Priest. Et puis du coup, il y avait un camion sono qui était là et on a commencé à marcher dans la rue qui amène jusqu'à la tôle. En distribuant un texte de 12 pages qui avait été fait avec des textes de différents collectifs et assos qui avaient envie de d'appeler à ce rassemblement.
Il faut savoir aussi que la prison de Corba, ça fait environ 2 ans qu'elle est en.
Ouais, depuis 2009.
C'est ça. Donc c'était pour ça en fait que c'est la première fois qu'il y a une manif là-bas. Et que la grosse différence du coup le centre-ville, c'est que c'est vraiment excentré. Et que du coup, c'était quand même assez glauque en fait d'arriver dans cet endroit où en fait la tôle elle est entre une zone industrielle et des terrains vagues, il y a rien autour quoi, et quand nous on a traversé Saint-Priest, c'était la banlieue.
Ouais, après il y avait il y a pas mal de gens qui ont manifesté leur solidarité, leur sympathie quand ils ont capté de quoi il s'agissait, parce que il y avait quand même quelques slogans qui était dit le long du parcours. Et du coup, il y a eu ce truc aussi qu'on a capté super vite, qu'il y avait une personne qui venait de s'évader, en fait, quasiment au moment où le rassemblement est parti. Donc une personne qui s'est évadée apparemment en simulant un malaise lors d'un transfert et qui a réussi à se faire la malle de Corba, ce qui est quand même plutôt classe.
Ouais, et apparemment, c'était la première fois qu'il y avait une évasion qui réussissait à Corba. Du coup... plutôt nous dans le cortège, on était hyper contents de savoir ça. Et après, ça faisait aussi que... Donc, il y avait quand même un fort déploiement de gendarmerie dans Corba et Saint-Priest. Et notamment, il y avait un hélicoptère, là, comme on l'entend pendant le montage. Et donc, ça faisait aussi qu'il y avait une espèce d'ambiance un peu bizarre, là, de nous qui manifestions dans une espèce de zone industrielle déserte, avec cet hélicoptère qui tournait autour et qui cherchait à en évader. Enfin, voilà, c'était une espèce d'ambiance comme ça, un peu chelou, quoi.
Ouais, et puis de se dire qu'on espérait super fort qu'il allait réussir à se faire la malle pour de bon. Et pendant tout le temps du rassemblement, en fait, on n'avait pas d'infos sur où il en était, etc. Et en fait, lui, pendant ce temps-là, il avait réussi à se planquer sous une bagnole dans le quartier. Et donc, il a réussi à rester planqué pendant 2 heures.
Et il s'est fait dénoncer par les gens qui habitaient juste à côté, quoi. Qui l'ont dénoncé en fait, et du coup il s'est fait choper par les keufs et qui l'ont ramené à la tôle, quoi. Mais ça, on l'a su que le lendemain, quoi, en lisant des articles de journaux, tout ça.
Et du coup il a pris apparemment 1 an de prison ferme de plus, donc rajouté à sa peine pour cette évasion. Voilà, donc une grosse pensée forte pour lui.
Ouais, et en tout cas, ça nous donnait une bonne raison de plus pour être là à ce moment-là devant la prison. Et en tout cas, moi, je trouvais que un des aspects positifs de cette manif, c'était qu'il y avait vraiment des gens qui avaient vraiment la pêche et qu'il y avait plein de pétards et de feux d'artifice et tout ça qui sont partis un peu tout le temps dans tous les sens, et que ça faisait vraiment plein de bruit et de lumière devant la prison, et que aussi dans la partie où on était pendant un moment, on voyait des détenus à leurs fenêtres. Et qui aussi commençaient à foutre le feu à des draps ou des trucs comme ça. Et du coup, ça faisait qu'il y avait vraiment quand même une ambiance un peu péchue, et que c'était pas juste un rassemblement un peu plan-plan et indigné ou je sais pas quoi, mais que vraiment...
Puis il y a des messages personnels qui sont passés aussi envers des détenus. Parce qu'on a eu un peu du mal à entendre ce qu'ils disaient eux, mais il y a des messages personnels qui sont passés, et du coup ça c'était assez classe. Et il y a eu aussi ce moment assez drôle où on entend à un moment donné dans le montage où il y a des personnes, une quinzaine de personnes qui sont mises à secouer la barrière extérieure de la tôle, quoi. Bon, après il y a le mur d'enceinte et tout ça, et qui l'ont fait un peu tanguer, et du coup ça c'était assez chouette comme moment, quoi.
L'idée, en fait, c'était aussi de montrer de la solidarité par rapport aux textes collectifs qui sont sortis à la fin de l'été, de montrer que les gens, ils sont pas tout seuls à l'intérieur, que dehors aussi, il y a envie d'en finir avec la tôle, et que c'est des moments où on peut se montrer qu'on n'est pas seul et s'apporter du soutien et se tenir chaud, en fait. Et du coup, c'était un moment fort, hyper fort aussi. Au niveau de ce que ça, enfin, de pouvoir sentir en fait que malgré les barreaux, on arrivait à être présents les uns pour les autres.
Ouais, et aussi il y avait pas mal de familles, non seulement des familles ou des proches de détenus, mais aussi des familles de personnes qui étaient mortes par les flics, qui étaient aussi présentes, et du coup ça faisait aussi peser ce truc là
qui étaient mortes dans la la tôle, quoi,
dans la tôle ou dans des commissariats.
Mais d'ailleurs, ça avait d'autant plus de sens ce moment là parce que genre une semaine avant, il y avait un détenu qui était mort dans cette tôle. Je sais pas si c'était suicidé ou mort suspecte, mais en tout cas, ça avait encore, c'était genre le 8e suicide à Corba, quoi.
Ouais, il faut savoir que Corba, c'est la prison en France où il y a le plus de suicides en 2011. Et du coup, ça montre bien que leurs espèces de nouvelles prisons ultra modernes, machin, qui sont censées être plus humaines ou je sais pas quoi, et ben juste, c'est encore plus de la grosse merde que celle d'avant, en fait. Puisque là, du coup, voilà, c'était vraiment le modèle de la prison moderne, machin, et c'est là où il y a eu le plus de morts en 2011, et du coup, ça montre bien qu'en fait, une prison, ça reste une prison, et ça reste un truc où juste c'est pas vivable pour plein de gens, et que du coup, voilà, en fait.
Et que c'est pas aménageable non plus. Que mettre un coup de peinture, ça changera rien à l'enfermement, que les prisons modernes qui sont complètement blindées de caméras de vidéosurveillance, ouverture de portes automatiques, etc. C'est encore plus de contrôle, encore plus d'isolement, et qu'on n'en veut pas.
Ouais, après, moi j'ai trouvé ça chouette ce moment, justement, de pouvoir montrer qu'on était plein de toute la région Rhône-Alpes, c'était pas que des gens de Lyon qui étaient là, à pouvoir poser un acte de solidarité avec les détenus et avec quand on sait qu'il y a une lutte particulière qui se mène dans cette prison-là. Après, moi, ça me faisait toujours aussi, c'est un peu ce truc bizarre de dire, bon, bah voilà, on est là maintenant, et puis après, qu'est-ce qu'on... Enfin, que voilà, on a fini par repartir et tout ça, et du coup, moi, ça me pose toujours aussi ce truc de dire... Bah que en fait ouais ça suffit pas de faire juste une manif une fois de temps en temps et que c'est aussi une lutte qui s'inscrit plus dans le long terme et plus dans du quotidien et que du coup c'est aussi ça que qui est important de dire en fait que certes c'était bien qu'il y ait cette manif et qu'on soit là à ce moment-là mais que il faut aussi faire d'autres choses et c'est notamment pour ça qu'il y a des émissions de radio qui existent pour,
bah c'est ça redonne en fait ce truc de dire ben ouais en fait enfin il y a vraiment des trucs à faire ça redonne ce truc un peu enfin, où là, quand on en parle à la radio, c'est un peu loin et tout ça. Mais quand on est présent juste à côté, ça fait un truc genre de... Ouais, un peu de... Je sais pas, pas urgence, mais je sais pas, c'est le mot qui me vient là maintenant, mais un peu de truc, bah en fait, ça existe vraiment, en fait, là, c'est sous mes yeux. Et voilà, quoi.
Et en tout cas, on est intéressé pour avoir des infos, des suites, notamment à l'intérieur. Donc, s'il y a des gens qui connaissent... des gens à l'intérieur de Corba et qui savent comment ça s'est passé depuis l'intérieur, ce moment-là. Et s'il y a eu des répercussions, notamment pour les personnes qui se sont bien montrées aux fenêtres, qu'on fait partir des feux, des trucs comme ça, on est à la recherche d'infos comme ça. Voilà.
Alors, voilà ce qu'on avait envie de dire sur cette manif. Maintenant, on va écouter un petit morceau de musique. Alors, c'est un morceau du rappeur Fils du Béton qui s'appelle 22-22-17-17 et c'est une chanson contre les keufs.
V'là l'équipe de France, les bleus. Pour une chasse au canard comme 40 bleus. Gyrophare et crissement de pneus. Fonce de Ricard et tête de nœud. C'est Califrac, c'est le champ des plaques. Soir on fait le bisou, Judas à la Pâque. Insulte raciste et coup de matraque. Qu'est-ce qu'il dit l'agent? Il dit écoute ma carte. Tu vides tes poches, il vide son sac. Vous les noirs, les arabes, vous puez, vous êtes tous sales. Police nationale, c'est du joli. Patrouille au whisky dans les rues la nuit. Le kit dit qu'il a fait l'Algérie. Et qu'en revenant il a failli ouvrir une boucherie. Voir Alger et mourir. Voir Roissy mourir. Vivre dans le quartier mourir. Ok le préfet a des chiffres à fournir. Mais le quartier a besoin de se nourrir. Je vous présente l'inspecteur la torture. Et puis son collègue l'inspecteur la bavure. Au commissariat entre les murs. Qu'est-ce qu'a fait la République? Bête à base dure. Au fait je voulais demander. Ils font du camping les CRS. Sur les parkings de nos tests. Ça sent bizarre dans le secteur. Ça sent la racaille grillée aux tasseurs. Mais qui nous protège de des bleus. Quand l'un d'eux a trop bu et devient trop nerveux. J'ai la grime, Malek ou Sekin. Je dédicace à toutes les victimes et Sekin. 22-22, balade vers les bleus. 17-17, sort la nuisette. De 22, et bève là les bleus. Salaud descend dans le quartier des lépreux. T'es joué les cow-boys armés. On n'a pas buté le shérif ou l'adjoint comme Bob Marley. Tu veux un cliché, on n'aime pas la police. Comme chaque jour, leur syndicat nous vomisse. Au petit matin, perquise. Faites pas de mal à mon fichier. Retourne dans ton pays. Allô. Vous avez demandé la police. Allô. On s'appelle tous Aïssa Habib ou Amadou Diallo. Safari au Mirail à Mantes la Jolie. Balle trap au flashball dans le dos, ça fait mal. Les stups traînent dans la cube. À la recherche de keps, de quêtes de cubes à l'intérieur des culs. La racaille, elle est têtue. Elle nous jette des queues trues. Au lieu de nous souhaiter la bienvenue, ça sent la bévue. Pour se prévenir, des fois l'État assassine ni vu ni connu. Face à terre, mais qu'est-ce que tu vas faire à part te taire ou insulter leur mère? Les bleus nous détestent, c'est pas un rêve. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que tu crèves au transiquet des orfèvres? 22-22, v'là les bleus tout dégueu. Cachez-vous les Rabza et les Nigeux. 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17-17, sort la Nice. 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17-17, sort la Nice. 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17-17, sort la Nice. Et quand leur syndicat nous vomisse, j'irai chanter justice en banlieue au bal de la police.
La liberté,
partout.
L'égalité,
partout.
Fraternité,
partout.
Solidarité,
partout.
Du respect,
partout.
Solidarité avec les inculpés de Toulouse. Libération immédiate, arrêt des poursuites.
Partout. Solidarité.
Le 5 juillet dernier, une dizaine de personnes ont pénétré dans les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'Abège, pour manifester contre l'incarcération des mineurs. Quatre mois plus tard, le 15 novembre, une centaine de gendarmes ont opéré à Toulouse des perquisitions et procédé à une dizaine d'interpellations dans sept lieux d'habitation.
Six personnes sont placées en garde à vue et quatre d'entre elles sont depuis en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seyss. Une cinquième est sous contrôle judiciaire et la sixième gardée sous le coude par la justice en tant que témoin assisté.
Que ces personnes soient impliquées ou non dans cette action n'a pas d'importance, tant il est juste d'avoir exprimé sa solidarité avec celles et ceux qui subissent la répression de manière brutale. Ici, les jeunes prisonniers de Lavor qui se sont mutinés en mai 2011. Quand l'État enferme pour quelques graffitis, il tente de terroriser ses détracteurs et toutes celles et ceux qui se risqueraient à quelques actions directes revendicatives.
L'époque résonne du bruit de bottes. Omniprésence de flics et de militaires sur la voie publique, multiplication des fichiers, délation institutionnelle, interdiction, amende, en tout genre. La pression policière s'accentue sans cesse sur la population. Contrôle, surveillance, contrainte sont le lot quotidien de tout un chacun, particulièrement des plus pauvres.
Nous ne voulons pas de ce monde qui nous contrôle et nous emmure. Leurs matraques ne nous feront pas taire, ni marcher d'un seul pas. Une semaine de mobilisation s'organise en solidarité avec les inculpés à partir du 10 décembre.
Et samedi 17 décembre, descendons en nombre dans la rue, rendez-vous à Jean Jaurès à 14h.
Voilà, alors on voulait revenir un petit peu là-dessus. Tout d'abord parce que, pour commencer, la mutinerie qui a eu lieu au mois de mai dans l'EPM de Lavor, on en avait parlé à ce moment-là. Et on a parlé aussi cet été de l'action qui a eu à la Bèche contre la PJJ. Parce que dans
PJJ
les, contre la protection, les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est... une des institutions qui est partie prenante des établissements pour mineurs, les établissements pénitentiaires pour mineurs. Et donc, on avait suivi ce qui s'était passé à ces moments-là. Et du coup, on suit d'autant plus la répression là qui touche un certain nombre de personnes en ce moment à Toulouse. On avait envie de revenir là-dessus. Donc, pour recontextualiser un petit peu... Donc les EPM, les établissements pénitentiaires pour mineurs, ce sont des prisons pour les mineurs qui ont été construits et mis en fonctionnement à partir de 2007. Et depuis ce moment-là, et même avant ce moment-là, il y avait des luttes contre, pour empêcher leur construction, notamment par l'occupation de chantiers, des gens qui avaient... occuper les chantiers, occuper les arbres, occuper les grues, fait circuler des brochures, fait du tractage, fait des publications contre les EPM et contre l'enfermement en général. Du coup, depuis ce moment-là, en fait, il y a une opposition à ces établissements et à ce qu'ils impliquent, donc le fait d'enfermer les mineurs, de faire peser un contrôle social sur un peu tout le monde pour que les mineurs, comme les autres, marchent droit et se conforment à ce qu'on attend d'eux, aller à l'école, trouver du boulot, s'intégrer. Et à l'extérieur et à l'intérieur, eh ben, y a de l'opposition et de la résistance. Donc à l'intérieur, qu'il s'agisse d'évasion, de révolte et aussi parfois de suicide. Et à l'extérieur, du coup, il y a des gens qui tentent de choper les infos sur ce qui se passe parce que c'est assez compliqué, en fait, d'arriver à capter ce qui se passe à l'intérieur dans ces moments-là. Et donc, notamment, quand il y avait eu, là, au mois de mai, à Lavore, cette mutinerie qui avait duré plusieurs jours, il y avait eu intervention des ERIS, donc c'est les espèces de brigades de super matons cagoulés qui vont tabasser tout le monde à l'intérieur quand ça bouge. Et donc il y avait des gens qui étaient allés plusieurs fois devant l'EPM au moment des parloirs pour discuter avec les familles et essayer d'avoir des infos, faire sortir les infos, les faire circuler, organiser la solidarité. Ça avait été assez compliqué. Plusieurs fois, les personnes qui se présentaient dans ces moments-là se sont fait envoyer la gendarmerie pour qu'elle dégage. Et du coup, c'était vraiment compliqué d'arriver à capter les familles parce que juste l'accès au lieu était devenu impossible. L'occupation et le trachage des locaux de la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse à la Bège, s'inscrit dans ce cadre en fait de lutte contre la prison, contre l'enfermement des mineurs et de la solidarité de l'extérieur avec ce qui se passe à l'intérieur et de la lutte depuis l'extérieur contre les prisons. Comme c'est un peu redit dans l'extrait qu'on a passé avant et comme on en avait parlé un peu avant aussi, à ce moment-là, il y avait un groupe d'une dizaine de personnes qui étaient rentrées dans les locaux, qui avaient tagué les murs, qui avaient balancé des liquides qui sentaient l'ammoniaque et qui ressemblaient à des excréments sur les ordinateurs. Donc ça avait traché les ordinateurs et il y avait notamment un type qui bossait là-bas, qui avait tenté de s'interposer, qui avait reçu de la lacrymo. Et donc il y a une enquête qui a été ouverte suite à ça. Et c'est dans le cadre de cette enquête-là que le 15 novembre, il y a eu des perquisitions dans différents lieux à Toulouse et des personnes qui ont été arrêtées. Et que depuis, il y a quatre personnes qui sont toujours en détention préventive. Voilà. Du coup, après que les personnes aient été arrêtées, il y a eu un rassemblement devant le commissariat en solidarité avec ce qui s'était passé et avec les personnes arrêtées. Il y a eu la publication d'un certain nombre de textes et d'affiches qui ont circulé un peu dans toute la France et qui sont rassemblés sur un blog dont je vais donner l'adresse. Donc le blog en question, c'est http://pourlaliberté, donc en un mot et sans accent, pourlaliberté.noblogs, donc c'est noblogs.org, pourlaliberté.noblogs.org. Donc sur ce site, on peut retrouver pas mal d'infos en lien avec ce dont on vient de parler. Et on avait envie de lire un texte en fait qui a circulé sous forme de tract qu'on a trouvé plutôt chouette et qui revient un petit peu sur ça et sur les idées en fait qui sont portées dans cette lutte là et qui nous parlent. Ce tract il s'appelle « Pourquoi on resterait calme ». Les initiales de pourquoi on resterait calme, ça fait port, et port c'est un des mots qui avait été tagué à l'intérieur de la PJJ. Et donc on va vous faire un petit fond musical pour accompagner la lecture de ce tract.
Pourquoi on resterait calme ? Quels abîmes des majeurs ou des mineurs, les prisons sont régulièrement et depuis toujours secouées par des révoltes. Quel que soit le nom donné aux différentes structures pénitentiaires. Le bruit de la clé dans la serrure d'une cellule est une torture quotidienne, l'isolement une abomination, la fin du parloir une souffrance,
et le temps enfermer un sablier qui tue à petit feu. En mai 2001, la quasi-totalité des détenus de l'établissement pénitentiaire pour mineurs EPM de Lavore se révolte et saccage des dizaines de cellules. La réponse de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ, est tristement banale. Mesures d'isolement, conseils disciplinaires, transferts, ainsi qu'une descente des équipes régionales d'intervention et de sécurité, ERIS, spécialistes cagoulés du matage des luttes en prison. Pendant qu'on détruit un peu plus les gamins pour leur apprendre qu'ici, on ne se révolte pas, les éducateurs et éducatrices de la PJJ saisissent l'opportunité médiatique pour apitoyer sur les conditions de leur travail avec ces enfants irrécupérables.
Le discours porté alors par les torchons locaux, nationaux et autres porte-parole du maintien de l'ordre ne parvient pas à duper tout le monde. Un certain nombre de personnes touchées par la colère qu'expriment les jeunes détenus décident de manifester leur solidarité. Chercher à capter leur version des faits, réfléchir les moyens de la faire circuler, casser la condamnation unanime de cette révolte, faire savoir à l'intérieur que dehors des gens se bougent et pensent à eux. Le simple fait de se rendre le plus souvent possible à Lavore aux heures de parloir pour rencontrer les familles et discuter avec les proches étonne, dérange et irrite les autorités locales qui s'empressent de faire appel aux gendarmes pour empêcher tout échange.
Le 5 juillet dernier, une dizaine de personnes ont pénétré dans les locaux de la direction interrégionale de la PJJ à Labège dans la banlieue de Toulouse pour manifester contre l'incarcération des mineurs. Selon la dépêche du 6 juillet, qui s'appuie sur les déclarations faites aussitôt à la presse par le procureur de la République Vallée, ces personnes étaient armées de bouteilles dont elles ont déversé le contenu sur les bureaux et les ordinateurs. Un liquide marron au relent d'ammoniac et qui pourrait contenir de l'urine et des excréments humains. Elles sont reparties après avoir lancé des tracts qui contiendraient des propos injurieux sur l'action éducative menée par la PJJ. Si l'acte réalisé à Labège n'a pas été revendiqué, il est survenu quelques semaines après celui d'Orvault, en Loire-Atlantique, où des gens ont écrit sur les murs de la PJJ de Nantes, l'EPM tue, à la suite du suicide d'un mineur placé dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs de cette ville. L'action aurait traumatisé les éduques et le personnel qui s'affairaient à leurs tâches de chaque jour, séparés des mômes de leurs proches et de leurs familles jugées inaptes à les élever, enfermer des enfants dans une multitude de structures, plus répressives les unes que les autres, centres éducatifs renforcés, centres éducatifs fermés, prisons pour mineurs. Qui traumatise qui ?
4 mois plus tard, le mardi 15 novembre à Toulouse, 7 domiciles sont perquisitionnés par une centaine de gendarmes qui saisissent ordinateurs, téléphones, livres, affiches et effets personnels de toutes les habitantes. À l'issue de ces perquisitions, 7 personnes sont placées en garde à vue, 4 autres sont auditionnées et une famille en cours de régularisation est arrêtée, puis relâchée dans la journée. Après 32 heures de garde à vue, 4 sont placés en détention provisoire sur demande du juge d'instruction, SUC. Une 5e est placée sous contrôle judiciaire, une 6e doit rester à disposition du juge pour le reste de l'instruction en tant que témoin assisté. Il et elle sont mis en examen pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou de dégradation de biens. Violence commise en réunion sans incapacité et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion. Tout ça pourquoi ? 2 tags et un seau de caca ? Le fait de visiter en journée certains collaborateurs de l'enfermement semble relever d'un intolérable culot. Mais soyons sérieux. Au regard de la situation faite aux mineurs détenus et plus largement à l'ensemble de la population carcérale, cette action paraît bien modérée. Qui se fout de la gueule de qui ?
La police contrôle, pacifie, tue. La justice enferme, anéantit, tue. La répression n'est pas aveugle, et encore moins anodine. Elle vise celles et ceux qui, malgré leur position dans la société qui les voudrait pauvres et dociles, refusent ce sommeil. Un jour les anards, un jour les étudiantes, un jour les ouvriers grévistes, la liste des mouvements sociaux criminalisés est infinie. Sur Toulouse, pendant le mouvement des retraites, des personnes écopent de mois de sursis pour un tag, à la fac des étudiantes sont condamnées pour une occupation pendant une grève, dans les boîtes des travailleurs, travailleuses sont sanctionnés pour telle ou telle action, des squats où l'on fait intervenir le GIPN et où la justice prend des licences avec ses propres règles. Ce n'est pas un milieu que l'on cible, c'est la capacité d'action de toute lutte. Dès que la contestation sort du cadre légal, qui ne laisse d'autre choix que d'organiser une jolie manifestation plan-plan déposée en préfecture, on s'expose à une répression aussi mégalo que ses commanditaires. Saupoudrons le tout de termes tels que mouvance anarchiste, anarcho-autonome, gauchiste, que la justice et les médias affectionnent tant, et que la tambouille médiatico-judiciaire est servie. Et la tambouille médiatico-judiciaire est servie, pardon. Cuisine rendue volontairement indigeste, pour faire croire que ces luttes ne concernent qu'une bande d'inadaptés extrémistes et incurables. Alors qu'à Toulouse, comme ailleurs, la police et les corps répressifs sont partout, nous pourrissent la vie à tous et à toutes. Des banlieues au centre-ville, en effectifs toujours plus nombreux et toujours plus armés. Ce qu'ils appellent ville propre, c'est une ville livrée aux bourgeois et au commerce, mortifère, aseptisée, où rien ne dépasse et où tout est sous le contrôle des caméras, des forces de l'ordre, des bons citoyens. Qui terrorise qui ?
Quelzé ou non fait partie de l'expédition qui nous avait réjouis à l'époque, nous sommes solidaires des inculpés. Nous ne voulons pas de ce monde qui nous contrôle et nous emmure. Leurs matraques ne nous feront pas taire, ni marcher d'un seul pas. Au contraire, exprimons notre solidarité avec rage et détermination. Exigeons l'arrêt des poursuites et la libération pour les inculpés du 15 novembre. Les murs nous enferment, attaquons toutes les prisons. Laissez libre cours à votre imagination pour tout acte de solidarité dans chaque ville.
Voilà, alors on a lu ce texte-là parce qu'il nous plaît et parce qu'il nous parle et parce qu'on a envie de le faire partager. Et donc, effectivement, il y avait un appel à une semaine de solidarité et notamment à des rassemblements ce week-end, enfin le week-end dernier plus précisément, donc le 17 décembre. Alors, au moment où on enregistre l'émission, c'est tout frais, donc on a assez peu d'infos sur ce qui s'est passé dans le cadre de cet appel à solidarité, mais on en a quand même quelques infos qu'on va partager avec vous. Du coup, il y a eu des rassemblements de solidarité à Lyon, à Bordeaux, à Poitiers, à Toulouse. Il y a eu des bouffes de soutien, et il va y en avoir aussi dans d'autres villes. Donc c'est la solidarité, elle n'est pas limitée dans le temps à cette date-là, ni à des villes en particulier. L'appel à solidarité, il est large et il est sur la base de la lutte contre l'enfermement et contre le monde qui fonctionne parce qu'il y a des prisons, qui fonctionnent tel qu'il est parce que les prisons l'aident bien à ça. Il y a une adresse qui a été donnée en fait pour pouvoir soutenir financièrement notamment les personnes qui sont en tôle pour pouvoir cantiner par exemple. Donc c'est possible d'envoyer des chèques à l'ordre de Maria comme le prénom. Et donc l'adresse c'est CAJCO Canal Sud 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Donc Maria, CAJCO Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Donc c'est possible d'envoyer de la thune pour un soutien financier pour les personnes qui sont enfermées en ce moment dans le cadre de l'enquête sur cette action-là.
Et sinon, il y a aussi il y a une adresse mail aussi qui a été créée, où du coup c'est possible d'envoyer des messages soit de solidarité, soit pour avoir plus d'informations. Et cette adresse, c'est non à l'EPM, tout attaché. Alors ça fait nonalepm, @riseup.net. Riseup, c'est RISEUP.
Et puis aussi, il s'est passé des trucs à Grenoble en solidarité. Et il y avait une action. On a trouvé ce texte sur Indie Media et du coup, on avait envie de vous le lire. Alors, dans le contexte global de l'humanisation des prisons et de la démocratie participative, nous avons décidé d'apporter, nous aussi, notre petite touche personnelle au tableau. Ainsi, depuis vendredi matin, 6 véhicules de la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ, rue Élie Vernet à Grenoble, se balade dans la ville en affichant une campagne de marketing peu ordinaire. Donc on a « Lancez-moi des pierres, j'enferme des mineurs »,« J'envoie en prison pour un salaire »,« Pourriture, j'emmerde les juges »,« Je suis en maton », »,« Le PM tue », »,« La prison tue », »,« Nique la tôle ». Ne rechignons pas sur les formes, nous en avons même profité pour leur offrir un ravalement de façade du même cru. Pour permettre au personnel d'admirer de loin ces changements, nous avons englué les 5 serrures apparentes et placé un cadenas sur le portail. Pas pour lui donner congé, mais pour l'empêcher de faire son boulot de merde. Tout ça par pure mesquinerie, juste parce qu'on n'aime pas les prisons. Solidarité dans les luttes et gros bisous. La démocratie est moche. C'est signé des esthètes qui n'ont pas de calendrier. La solidarité non plus d'ailleurs.
Et alors, juste pour rappeler, ce texte, il a été trouvé sur Indie Media Grenoble, qui est un site internet où il y a un peu plein d'informations sur les luttes en cours à Grenoble et ailleurs. Et l'adresse de ce site, c'est http://grenoble.indymedia.org.
Pour terminer, on voulait vous lire des extraits d'une lettre qui a été rendue publique et qui est donc une lettre écrite le 9 décembre 2011 par une des quatre personnes qui est incarcérée, et plus précisément à la maison d'arrêt des femmes de Seyss. Voilà.
Maison d'arrêt des femmes, Seyss, le vendredi 9 décembre 2011. Je souhaite tout d'abord exprimer ma plus entière solidarité aux copains et copines récemment inculpés à Nantes, suite à une action de recouvrement de couleurs des locaux de ces charognards de Vinci. Et exprimer ma solidarité à celles et ceux qui étaient jusqu'alors sous contrôle judiciaire en Île-de-France et récemment inculpés suite à l'instruction du juge Bruno, avec, parmi les accusations, celle de participation à un groupement formé en vue de la réalisation d'actes terroristes et détention et transport d'explosifs. L'étau se serre un peu plus, les chaînes sont alourdies, la chasse aux méchants et méchantes membres de la mouvance anarcho-pouette-pouette est à nouveau ouverte. Ces rouleaux compresseurs font craquer nos vertèbres en roulant sur nos dos pour nous obliger à courber les chines. Depuis la prison pour femmes de Seyss, je voudrais vous envoyer toute ma solidarité. Une fois de plus, ils profitent d'avoir des gens sous la main pour les charger encore et encore. J'imagine que suite à cela, ils vont remettre en question votre liberté sous contrôle judiciaire et tenter de vous incarcérer à nouveau.
Ces coups de filet répressifs dans toute la France tombent dans un contexte où réforme de la garde à vue, durcissement des mesures concernant les mineurs et intégration des gentils citoyens dans les salles d'audience correctionnelles se disputent pour redorer l'image de la justice et de son bras armé, la police. Une justice à notre image donc, où les condamnations seront rendues par nos pairs, une justice qui fera donc appel à des personnes n'ayant pas eu de notion de droit et peu d'expérience des tenants et aboutissants d'une cour de justice, se mettront à juger la pègre, quand les plus grands magistrats s'occuperont des délits d'initiés et autres détournements de fonds. Une justice à notre image. Demander plus de professionnels ou de formation pour les jurés et les citoyennes assesseurs n'a pas pour moi plus d'intérêt que de demander à l'oppresseur de me desserrer un tout petit peu mes menottes ou de changer la couleur de la peinture de ma cellule. Si la justice était telle que nous la voulons... Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Ici, c'est plutôt l'inverse qui se dessine. Il est prévu pour janvier de remplacer les barreaux existants par des grilles. Fini la lumière du soleil qui arrive un peu à rentrer dans la cellule. Fini la vue sur la cour de promenade. Fini la dépanne entre meufs grâce au yo-yo. Approfondir un peu plus l'isolement sensoriel de la tôle. Après le goût, grâce au fameux plat sans saveur de la Sigès Sodexo. Après la transformation du silence en bruit de fond, de la soufflerie et de voix qui résonnent dans toute la tôle, ces cellules où tu entends sans distinguer ce qui se passe dans les couloirs, mais où de dehors, personne ne t'entend. Après l'odeur aseptisée de la tôle, où t'arrives juste à distinguer ce qui est de la javel et ce qui n'en est pas. Après la disparition de tout contact tactile avec les gens qui t'entourent, sauf pour te passer les menottes. Après la transformation de l'appréciation du temps, qui maintenant vient se caler sur le cliquetis des clés des matones. La vue se retrouvera non plus stoppée au mur d'enceinte et morcelée par les barreaux et grillages, mais sera limitée à des pixels de 5 cm de côté. Comme à la prison de Saint-Paul à Lyon, ou comme au SMPR de cette même maison d'arrêt de Seyss. Le prétexte serait que les détenus balancent tous leurs déchets par la fenêtre. Sous le vernis hygiéniste teinté d'écologisme à deux balles, se cache la volonté de couper les petits actes de dépanne entre détenus, possible grâce au yo-yo. T'as pas de clope, pas de sel, bah tu attendras la promenade pour te faire dépanner. Modernisation des conditions de détention, qu'ils disent, accentuation de l'isolement, de la misère plutôt.
La prison, ce pilier de ce monde qui fait que tout le reste tourne. Sans tôle, comment nous obliger à accepter notre condition de travailleurs et de travailleuses asservies au patron, dociles et exploités, afin d'engraisser de juteux bénéfices? Sans tôle, comment nous empêcher de contester la mise en place de leurs lois racistes, classistes, sexistes? Sans tôle, comment nous obliger à payer tout ce dont on a besoin quand on pourrait simplement le prendre? Sans tôle, comment nous obliger à se faire voler par les banques? Sans tôle, comment nous conditionner à être de bons citoyens et de bonnes citoyennes? Sans tôle, comment nous monter les uns et les unes contre les autres? Sans tôle, comment nous isoler dans la peur et l'asservissement? Ils n'ont néanmoins pas encore tout à fait réussi à enfermer nos rages, nos haines et nos envies de liberté. Des tentatives funestes cependant, grâce au gavage de cachetons pour celles et ceux qui sont hors de leurs normes, de la perception et du comportement. Mais pour tous ceux et toutes celles que la psychiatrie n'a pas encore écrasés, la haine, la rage et l'amour de la liberté ne pourront jamais être enfermés et conditionnés. C'est de la nitroglycérine en attente. Pour tous les enfermés et pour toutes les enfermées dedans, courage et toute ma solidarité. Pour tous les enfermés et toutes les enfermées dehors, solidarité, car le monde n'est pas plus beau, et merci d'être là. Une enragée encagée depuis le 15 novembre 2011.
Voilà, donc on voulait partager un peu ces infos et ces textes parce qu'ils nous parlent et parce qu'on se sent solidaire de cette lutte-là et
qu'on espère qu'ils sortiront vite.
Et c'est aussi une manière de montrer de la solidarité par rapport à ce qui se passe.
Les murs ont des oreilles.
Une émission anticarcérale
contre tous les enfermements.
Tous les troisièmes mercredis de chaque mois.
De 19h à 20h.
Sur Radio Kaléidoscope 97
FM. Sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Alors maintenant, on va revenir sur dernièrement, vous avez dû entendre dans les médias dominants, Jean-Marie Delarue, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui a parlé de la prison de Nouméa. Du coup, on voulait vous reparler de ça. Alors la prison de Nouméa, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est une des 14 prisons de la France outre-mer. Alors outre-mer, ça veut dire en gros quoi, les anciennes colonies qui sont encore administrativement assujetties à la France. Du coup, il y a l'équipe de Jean-Marie Delarue qui a visité cette tôle et qui s'est indignée de ses conditions de détention. Il a alerté l'État et a émis un rapport sur la prison de Nouméa. Il s'est fait interviewer ensuite par France Info le mardi 6 décembre. Alors, on vous évitera l'interview de ce mec-là parce qu'il est assez insupportable à écouter, en bon politicien qu'il est. Mais on va vous passer un petit passage où il y a le journaliste de France Info qui décrit les conditions de détention à Nouméa.
Lorsque les contrôleurs pénètrent au camp Est, comme on l'appelle, ils ont le sentiment de revenir 150 ans en arrière lorsque la Nouvelle-Calédonie est tristement célèbre en métropole pour son bagne. Cet enfer sur terre, il existe toujours en 2011. Dans la maison d'arrêt, les contrôleurs décrivent des cellules de 12 mètres carrés dans lesquelles s'entassent 6 personnes au lieu de 2. Il y a des lits superposés de chaque côté et un matelas au milieu. Malheur à celui qui l'occupe. Le sol est crasseux, humide, c'est aussi le territoire des cafards géants et des rats. La nuit, le détenu installé dans ce passage risque à tout moment de se faire piétiner par un compagnon d'infortune qui se rend aux toilettes, des WC à la turque dans un coin de ses 12 mètres carrés. Pour lutter contre la chaleur étouffante, on a trouvé un seul moyen, inonder périodiquement ses cellules, en dépit de toute règle de sécurité électrique. Situation dramatique à la maison d'arrêt, ce n'est pas mieux au centre de détention qui accueille les longues peines, c'est encore pire au quartier d'isolement. À Nouméa, les détenus n'ont droit à rien, ni téléphone, ni activité, ni soins réguliers, aucune perspective. Les contrôleurs n'ont trouvé là qu'une raison de ne pas désespérer, le dévouement du personnel, témoin quotidien de cette situation effroyable.
Alors du coup, ça fait un peu scandale dans la presse dominante dernièrement. C'est « Oh mon Dieu, c'est encore le bagne là-bas, c'est affreux de traiter les gens de cette façon, ce n'est pas digne de la France, pays des droits de l'homme, etc. blablabla ». Alors c'est clair que quand on entend les descriptions, ça fait un peu froid dans le dos. On a vraiment l'impression que ça monte vraiment d'un cran dans l'humiliation et la négation de l'individu. Mais ça pousse quand même à se demander si le plan de communication derrière ça, c'est pas de dire « Regardez là-bas comme c'est horrible, heureusement en métropole, ils sont mieux lotis, ils ont la télé, blablabla, etc. » C'est un peu le bon vieux « Te plains pas, c'est pire ailleurs », comme si l'absence de rats et la présence de salles de sport, ça rendait l'enfermement plus supportable. Puis c'est vraiment le truc sensationnaliste par excellence, quoi. On a entendu le ton du journaliste. C'est choquant à souhait, ça nourrit l'indignation des braves gens. Mais entre le procès de Jacques Chirac et la victoire en demi-finale des handballeuses françaises, ça passe plutôt bien, ça sera vite oublié, nommé assez loin, c'est bien caché, et puis surtout, on s'en occupe. Pas besoin de réfléchir, Jean-Marie s'en occupe. Il s'indigne pour nous. Mais alors, qui est Jean-Marie ? Alors là, c'est le moment où je vous parle des contrôleurs des lieux de privation de liberté. D'ailleurs, c'est très joli hein, comme nom, les lieux de privation de liberté. Ça fait beaucoup plus moins sordide et plus lisse que prison. Donc cette instance, elle a été créée en 2008, en inspiration du protocole facultatif de la Convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Donc c'est sous la présidence de Jean-Marie Delarue, qui est le contrôleur général, une équipe de 18 personnes qui est chargée de visiter près de 5500 lieux, les établissements pénitentiaires, les locaux de garde à vue, dépôts des tribunaux, centres éducatifs fermés, zones d'attente, centres de rétention administratifs, secteurs psychiatriques des hôpitaux et les locaux d'arrêt des armées. Le contrôleur général ne peut que former des recommandations et n'a aucun pouvoir d'injonction, faudrait pas pousser quand même. Il peut recevoir toute information ou pièce utile, mais leur caractère secret peut lui être opposé pour des raisons de sécurité, toujours, ou si cela nuit à une instruction en cours, au secret médical ou au secret professionnel. Alors attention, c'est une instance indépendante. Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité, il est nommé pour 6 ans, sans possibilité de le révoquer. Il ne peut être poursuivi pour les opinions et actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions, et il ne peut exercer d'autres activités professionnelles ou mandats électifs. Mais alors, la petite blague, c'est qu'il est nommé par le président de la République. Donc bonjour l'indépendance. Concernant les personnes qui font partie de cette équipe, le protocole facultatif de l'ONU prévoit de nommer des, je cite, personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier, en matière de droit pénal et d'administration pénitentiaire ou policière. Donc en gros, qu'est-ce que ça donne ? On a Jean-Marie Delarue, qui est un ancien conseiller d'État et qui a eu divers postes ministériels. Betty Brami, qui était psychiatre en prison pendant 10 ans. Michel Clémaux, ancien général de gendarmerie. Thierry Landais, qui a été directeur de prison. Jean Costil, qui a été président de l'asso Forum Réfugiés. Isabelle Le Bourgeois, qui est psychanalyste et ancienne aumônière. Bernard Bolzé, fondateur de l'OIP. Martine Clément, ancien directeur des SPIP. Les SPIP, c'est les services pénitentiaires d'insertion et de probation. C'est en gros, à la sortie de la tôle, en fait, c'est les personnes qui sont censées te réinsérer et surtout qui te font du chantage à la réinsertion. En gros, si tu te conduis pas bien, on te remet en tôle.
Juste par rapport à cette liste. On voit bien que c'est que des gens qui, en fait, ont co-géré le système pénitentiaire. Mais je voulais juste rajouter que quand tu as parlé d'une personne qui était dans l'association Forum Réfugiés, et on aurait l'impression comme ça que c'est un truc un peu plus humaniste que le reste. En fait, l'association Forum Réfugiés, c'est une des associations qui co-gère les centres de rétention en France.
Ouais, c'est une bonne info à avoir, quoi. Et du coup, voilà, je crois que j'avais fini. Il y avait aussi Alain Marco Derroir, qui était le cadre d'une ancienne entreprise qui exploitait des détenus en tôle, quoi. Donc, en gros, là, j'ai pas fait la liste complète, mais en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a un politicard, un flic, un psychiatre, un directeur de tôle, une SPIP, un exploiteur de détenus et des humanitaires au milieu pour faire joli, quoi. Et en gros, ce sont ces gens-là qui sont censés donner un espoir aux détenus pour dénoncer les dysfonctionnements au sein des prisons. Du coup, ça fait un peu rire jaune, quoi. Et du coup, voilà, enfin, c'est la sensation là-dessus, c'est que cette instance, c'est une nouvelle façon de faire avaler la pilule, un peu comme la CNIL pour les questions de fichage, quoi. C'est un peu le même combat. C'est vraiment un bel exemple de l'hypocrisie du système, quoi. On est une instance indépendante, on est là pour surveiller que les institutions fassent pas trop de conneries. Mais on a vu ce que ça donne avec la CNIL. Ils émettent des avis, c'est super. Ils se plaignent un peu de temps en temps en disant « Oulala, quand même, c'est pas très cool ce que vous faites ». Et puis voilà, fin de l'action. Donc voilà, enfin, on voit vraiment ça comme un leurre, quoi, pour contenir les colères et les révoltes. C'est une soupape, en fait, pour éviter que la cocotte explose. Alors nous, c'est clair qu'on veut plutôt même carrément l'inverse. Et même si parfois ça nous arrive de passer par ce genre d'instance légaliste, bah faut surtout pas oublier quel est leur rôle dans le maintien du système. Du coup, voilà pour Nouméa. Et du coup, on va passer aux brèves anticarcérales.
et on n'est même pas trop à la bourre, c'est parfait.
Alors oui, du coup, je voulais vous lire un texte que j'ai trouvé sur le site cette-semaine.free.fr dans les brèves du désordre et qui fait un petit peu un récapitulatif des révoltes et des évasions dans les centres de rétention en France. Donc je vous le lis. Centre de rétention, chronique de révolte et d'évasion. Bobigny. 500 papiers se sont évadés le 12 décembre. Les 4 Tunisiens et un Angolais était présenté dans l'après-midi à une audience du tribunal de grande instance de Bobigny à Seine-Saint-Denis. Ils ont profité d'une suspension pour échapper à leur geôlier en ouvrant une fenêtre qui se trouvait au rez-de-chaussée. À l'extérieur, ils sont sortis dans la rue au nez et à la barbe des policiers qui les surveillaient. Trois des évadés devaient être expulsés le lendemain après avoir vu leur demande d'asile politique rejetée. Vincennes. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, une trentaine de retenus du module 3 du centre de rétention de Vincennes se sont enfermés dans une chambre. Ils ont empêché les flics de rentrer pour venir chercher deux des leurs, deux Algériens dont l'expulsion était prévue pour un vol le lendemain matin. Pour l'un des deux, c'était le dernier jour de rétention. Suite à leur mouvement de résistance et de solidarité, 24 retenus ont été placés en garde à vue dans trois commissariats. Au bout de 20 heures, ils ont été ramenés au centre de rétention, sauf les deux Algériens. Après un passage devant un juge qui les a condamnés à 3 ans d'interdiction de territoire et à 3 mois de prison avec sursis, les deux ont également été réenfermés en centre de rétention. Ni prison, ni rétention, liberté pour tous. Mesline Hamelot. Le vendredi 4 novembre, 300 papiers ont réussi à s'évader du nouveau centre de rétention à Mesline Hamelot. Ce centre de rétention qui enferme 240 personnes, hommes, femmes et enfants, a ouvert en août 2011. Il est situé dans un endroit isolé à quelques kilomètres de l'aéroport de Roissy. Comme toutes les nouvelles prisons, il a été conçu pour entraver la communication entre les prisonniers et endiguer les révoltes. Petite unité séparée, nombreuses caméras. Mais quelle que soit la forme que prend la prison, la volonté de celles et ceux qui y sont enfermés sera toujours d'en sortir. Rennes. Le 7 octobre, au centre de Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de Rennes, plusieurs retenus se sont révoltés contre l'enfermement qu'on leur inflige. Ils ont monté des barricades, jeté des pierres et divers objets sur les policiers matons, ce qui a valu à plusieurs d'entre eux d'être condamnés à un mois de prison. À leur sortie, ils ont été ramenés au centre de rétention. Le 19 octobre, c'est un jeune Malien qui, venant d'apprendre que sa rétention était prolongée de 20 jours, s'est révolté. Placé en isolement, il a détérioré le système de vidéosurveillance et a essayé de se pendre en accrochant sa ceinture au détecteur d'incendie. Il a été placé en garde à vue et écopé d'un mois de prison. Vive la belle sans frontières. En octobre, en Roumanie, 24 Algériens et Tunisiens ont réussi à s'échapper du centre de rétention où ils étaient enfermés en attendant leur expulsion. 7 ont été repris alors qu'ils tentaient de passer la frontière vers la Hongrie. Les autres courent toujours. En Italie, au cours des mois d'octobre et de novembre, ce sont 18 retenus qui ont pu s'évader du centre d'identification et d'expulsion, CIE, de Restinco, et 3 de celui de Bologne. À Valence, en Espagne, 500 papiers ont pu se faire la belle du centre d'internement et d'expulsion. À tous, nous souhaitons bonne chance. On arrive à la fin de l'émission.
Juste deux mots. Juste deux mots pour parler de la sortie d'une brochure dont on parlera de manière un peu plus détaillée la fois prochaine. Donc c'est une brochure accompagnée d'un DVD qui parle du quartier d'isolement de Bruges en Belgique. Et ça s'appelle « Se battre contre l'isolement », c'est « Se battre contre la prison ». Feu à toutes les prisons. Voilà, comme ça c'est clair et direct. On en parlera de manière plus précise la prochaine fois. Et on voulait rappeler aussi que tous les 15 jours, le mercredi soir, à partir de 20h, il y a des ateliers d'écriture aux prisonniers et prisonnières au local autogéré à Grenoble, 7 rue Pierre Dupont. N'hésitez pas à passer pour voir un peu de quoi il s'agit ou simplement discuter, échanger des infos concernant la lutte contre la tôle.
Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Je vous redonne les coordonnées si vous avez envie de nous écrire ou de nous contacter. Alors, par courrier, vous pouvez nous écrire à l'adresse Les Murons des Oreilles, à Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Les Murons des Oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018, ou par mail, lesmurs@riseup.net, lesmurs@riseup.net. Voilà, et ben au mois prochain. Salut.
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 مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي؟ ماكلني وأنا عايش ببلادي؟ قتلني زي ما قتلت إجدادي؟
أجل القانون
عن فاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية؟
والله إنكم ناسية
من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية
حبلت ولدت
ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية
يعني ضربتني وبكيت سبقتني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين
نطيت وحكيت
ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وقلع لما وجع الفار بتناديني ارهابي
مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي
ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي
انا لحالي
اهلي تشردوا
راح اضلي انادي
انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة
تعملوا منه رمة
ومين انتو لسه امتى خبرتو اطلوا قديش قتلتو قديش قدمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا
انا بقولكم مين انتو
انتو كبرتو بدلا احنا كبرنا فقر مين كبر في وسع ومين كبر في جحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي
مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خد تاني كيف تتوقع مني اشكر الاداني تعرف ايش انت قولي كيف دخياني راكع ركبي وايديم ربطات عيون بالارض وجثث مدتتات بيوت مهدوم عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت عمر انت قتل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي رح ادافع حالي لو تا